Père a invité plein d'enfants pour que vous soyez formés. Et si vous êtes formés, alors le ministère va grandir. Il faut vous faire grandir, il faut au moins commencer par un début. Cette maison a une fondation, n'est-ce pas? Vous-même, il faut avoir des fondations. Donc on va commencer par les fondations. On va prendre tout le temps nécessaire pour construire cette fondation. Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Un regard sur l'Église ». Je dis bien « un regard », on peut poser beaucoup de regards sur l'Église. Non, il faudrait que vous appreniez à faire la différence entre le vrai et l'ivraie, entre le bon et le mauvais. Sinon, vous allez être manipulé de façon extraordinaire. Vous devez savoir que, au commencement, c'est Dieu qui a suscité les églises traditionnelles. On peut le vérifier dans la parole, à plusieurs niveaux. Mais avant de susciter les églises traditionnelles, il y avait déjà un problème sérieux qui se posait. C'est un problème qui hante les populations à tous les niveaux, dans tous les compartiments de leur vie. La parole dit, mon peuple souffre faute de connaissance. Est-ce que quelqu'un peut lire Osée 4, verset 6? Osée 4, verset 6, c'est dans l'Ancien Testament. Il faut écrire, il faut lire ce qui est précisément dit dans la parole, pour que les uns et les autres se retrouvent. Mon peuple souffre faute de connaissance. Quand vous allez voir le passage, vous allez voir que, par exemple, là, selon les versions, le fond reste le même, mais il n'est pas dit la même.
4, verset 6.
Oui, mon Dieu.
Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.
Alléluia. Donc il n'y a pas que cette partie de peuple pour se poser de connaissance qui devrait se faire. Il faut regarder notre compartiment et que Dieu peut très mal réagir. Le fait que tu ne pas écouter ta parole. Le fait que tu es choisi de ne pas obéir au commandement. C'est extrêmement important d'en avoir conscience. Donc vous gardez Osée 6, Osée 4, verset 6. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au commencement, les églises traditionnelles ont été suscitées par Dieu. Mais elles ont rencontré un problème avec Dieu. C'est ce que l'on appelle généralement les dogmes. Les dogmes ont perverti la relation à Dieu, dans son essence, dans son contenu. Et ça a poussé Dieu graduellement à susciter les églises que vous appelez habituellement église de réveil. Mais d'un point de vue historique, on devrait appeler église, je cherche le mot exact, parce que ce n'est pas église de réveil, église nouvelle, non, nouvelle. C'est un problème de chronologie. Mais il faudrait que nous fassions une segmentation. Vous parlez comme les universitaires, une typologie. Vous avez compris que je suis en train de partir, 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 partir. Est-ce qu'il y en a qui se seraient demandés de venir encore? On est en train de vouloir faire une segmentation pour que vous appreniez vous à discerner ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Parce que l'un des plus grands problèmes que l'Église est des chrétiens, c'est de savoir où Dieu est vraiment. Si tu ne retrouves pas ce problème, tu es très mal pensé. Vous avez d'un côté les églises traditionnelles. On va dire les grandes églises sont l'église catholique, l'église protestante, que ce soit catholique, anglicane, catholique, romaine, je ne sais pas encore quoi. C'est très segmenté. Mais c'est pas aussi segmenté que les églises nouvelles que vous appelez église de réveil. Maintenant, aujourd'hui, on va vous donner un enseignement spécial pour vous prenez le soin de faire attention. Parce que votre première fondation est là. Mais avant de déployer cette segmentation, j'aimerais qu'on tombe d'accord. C'est quoi un chrétien? C'est quoi être chrétien? Parce que c'est un problème sérieux. À la base, c'est même un problème extrêmement grave. La majeure partie des chrétiens n'en sont pas. Pour vous, c'est quoi être chrétien? Ils me regardent tous comme si vraiment là, c'était une question pour un champion. Vous avez raison. C'est un sujet à débat. Je vais prendre la définition qui crée le moins de débat. chrétien est une personne qui a l'Esprit Saint en lui. Un chrétien est une personne qui a l'Esprit Saint en lui. Parce que beaucoup de personnes croient être des chrétiens, mais ils ont juste une adhésion mentale à la religion. Rien qu'une adhésion mentale, c'est-à-dire qu'ils veulent les représentations. Ils copient seulement. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Ils n'ont rien de chrétien. Ils n'ont aucune chrétienté. La preuve en est que le diable se permet de venir jouer sur eux et jouer avec eux. Jouer même d'eux. Se jouer de leur vie. Nous continuons. Si nous sommes d'accord sur cette définition, on va continuer. Parce que c'est un véritable problème de pouvoir savoir où Dieu se trouve. Nous ne sommes pas ici dans des débats dénominationnels. Donc, on ne va pas débattre sur une dénomination de quelque façon que ce soit. On ne va pas parler de ça. On vous donne juste des critères, des principes, des normes, et puis bon. Si vous voulez être efficace, vous-même, vous allez partir dans les débats. Il y a d'abord à la base des églises traditionnelles. Après les églises traditionnelles, les églises nouvelles qui ont été suscitées par Dieu. Mais à côté des églises nouvelles qui ont été suscitées par Dieu, il y a une catégorie d'églises nouvelles suscitées par le diable. Mais on va arriver à ça. Églises nouvelles suscitées par Dieu, dans lesquelles vous avez un certain nombre de ministères activés et un certain type de catégorie engagée. Je vais vous demander, pour que les uns et les autres voient l'Église sous sa forme originelle, de prendre Éphésiens 4, versets 11 à 14. Éphésiens 4, versets 11 à 14. Est-ce que quelqu'un peut lire Éphésiens 4, versets 11 à 14? Oui.
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
Il faudrait qu'on y aille doucement, cet enseignement est important.
Et il a donné les uns comme apôtres.
Il faut bien écouter ce qui est dit là. En fait, pour les spécialistes en matière de théologie et les spécialistes eux-mêmes dans la pratique de la marche avec Dieu, ce que vous entendez va en décroissant. Les plus grands sont les apôtres. En dessous, vous avez les prophètes. En dessous des prophètes, vous avez les évangélistes. En dessous des évangélistes, vous avez les
pasteurs.
Les pasteurs. En dessous des pasteurs, vous avez
les docteurs.
Les docteurs.
La particularité des apôtres, si vous vous donnez une définition simple, c'est que ce sont des prophètes qui ont un rang international, qui ont une mission internationale. Alors que les prophètes et toutes les autres personnes ont une mission locale. Et c'est pourquoi les apôtres ont ceci de particulier que parfois ils cumulent les dons que tous les autres ont. Pour atteindre la mission qui leur a été confiée, Dieu leur donne plus d'autorité pour arriver à ce niveau-là.
Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
Ça veut dire que quoi? Toutes ces personnes font partie du corps de Christ. L'orteil ne va pas dire qu'il est plus important que l'œil. L'oreille ne va pas dire qu'il est plus important que le pied. Le ventre ne va pas dire qu'il est plus important que la poitrine, etc., etc. Toutes ces personnes faisant partie du corps de Christ sont toutes importantes pour l'édification de l'Église. Entrez. Merci. Oui, continue.
Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Oui. Et il est extrêmement important. Arrête-toi. Il est extrêmement important que les uns et les autres se rendent compte que la division qui a été conçue. Les segmentations qui étaient conçues ne devraient pas à l'origine créer des dynamiques ou des combats ou des batailles de clans. Non, ce n'était pas le but. y a un seul Christ. Il y a un seul chemin. Quelles que soient les dénominations que vous avez eues avec le temps, on devrait être d'accord sur un seul Christ, un seul maître, un seul chemin, un seul sauveur, un seul Dieu. Fini.
Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout temps de notre vie, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction.
Amen. On continue, parce que je voudrais que l'enterrement d'aujourd'hui, non, laisse, tu peux t'asseoir, que l'enterrement d'aujourd'hui soit court. 1 Corinthiens 12, verset 28. Vous avez un autre repère. 1 Corinthiens 12, verset 28. Qu'est-ce qui est écrit dedans?
Premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de se couper, de gouverner, de parler diverses langues.
Bien, vous voyez que il n'y a pas de doute là-dessus. Les églises traditionnelles ont été suscitées par Dieu lui-même. Et il a établi des gens selon des missions diverses qu'il leur a données. Lorsque vous avez les églises traditionnelles d'un côté, vous avez les églises nouvelles de l'autre, que vous appelez habituellement l'église du réveil. Dans ces sous-segments, vous avez certaines de ces églises qui ont été visitées par le diable. Et c'est là où les chrétiens sont en danger. Le danger n'est pas petit, c'est un danger considérable. C'est vos vies qui sont en danger. Vos vies et celles de vos enfants. Vous avez une catégorie d'églises dites de réveil qui, en fait, ont des pasteurs qui ne sont pas des sorciers, qui ne font aucune magie. Ce sont des escrocs. Et pour être plus technique, ce sont des prestidigitateurs. C'est-à-dire qu'ils font des tours de passe-passe. En faisant des tours de passe-passe, ils réussissent à tromper votre vigilance. Vous restez comme ça, que le gars là est bon. Il est trop fort, il est puissant. Quelle puissance? C'est la puissance de Dieu qui se déroule sur toi, qui utilise ce qui est puissant, ce n'est pas toi. Maintenant, dans toujours la catégorie des églises qui n'ont pas été visitées par Dieu, vous avez les églises qui ont été visitées par des individus qui ont tiré des pactes avec le diable. Faites très attention. Dans ce spectacle-là, l'ennemi aussi est capable de faire du spectacle. Il opère des miracles. Mais ces miracles sont de faux miracles parce que de toute façon, ils sont éphémères. Il y a des gens comme ça, quand ils vous n'avez pas besoin de faire des témoignages des semaines après. Le temps que les semaines après, soit se retrouver plus mal que là, on avait trouvé. Plus enchaîné même. Cet enseignement est très important parce qu'il faudrait que ce segment apparaisse dans vos esprits désormais. On a les églises traditionnelles. On a les églises nouvelles, dans laquelle il y a deux catégories de nouvelles églises. Il y a maintenant les églises qui sont suscitées par de véritables soins. Vous comprenez ce que je dis? Mais où il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe en termes de segmentation? La marche avec Dieu est une échelle sans fin. Un prophète. Et que vous ne fassiez pas les efforts permanents de la marche avec Dieu, vous allez tomber. Les pièges qui sont tendus aux prophètes, aux pasteurs, parce qu'il y a des vrais pasteurs, il y a des vrais prêtres. Il y a un parmi les serviteurs de Dieu, les gens qui ne sont pas chrétiens. C'est pourquoi je voudrais que vous enleviez cette cloison de vos pieds. Si tu es un loin, vraiment loin, un journaliste est venu, tu m'interviewes toujours. Tu me dis que vraiment, docteur, je ne sais pas cette prétendue pasteur, la cette prétendue prophète. Il y a un qui a grossi deux sœurs. Je dis que bon, il peut même être un vrai prophète. Tu me regardes comme ça, il est grand Dieu. Il dit que mais, si un vrai prophète de Jésus-Christ, ce n'est pas compliqué de grossir Dieu seul, tu as juste la main dedans. C'est quoi le problème? Le Seigneur m'a demandé d'enseigner aux hommes de Dieu ceci. Il me dit, dis-le, que ce n'est pas parce que j'ai déposé l'onction en eux que je protège leur corps. S'ils refusent de protéger leur corps, le diable va bénir leur père homme, il va les chasser. Puisque j'ai été formé pour former les hommes de Dieu. C'est ça mon rang. C'est pourquoi le ministère que j'ai reçu s'appelle le Père des Nations en question. Le travail que j'ai à faire est un travail planifié. Il m'a dit, dis-le, que je protège leur esprit. S'ils font des bêtises, le diable va leur faire honte et ils vont fuir. Deuxième problème dans cette église, il y a de véritables soins. C'est que les fidèles les poussent à la faute. Les fidèles poussent les vrais prophètes à la faute à travers quoi? L'ingratitude. Parce que, en fonction de la catégorie de prophètes que Dieu a établi, il y en a qui sont foirés, là on les a trouvés. Et ils calculent les dîmes, les offrandes. Ce n'est pas comme moi là que dîmes offrandes, je ne vis pas avec. Il m'a déjà donné le nécessaire pour être indépendant. Il y a d'autres, c'est tout ce qu'ils ont. Alors le gars voit qu'il travaille, tu arrives chez quelqu'un me mateuse, il ne te laisse pas dormir. Quand tu parles même le transport est déjà comme ça. Et l'ingratitude fait qu'au fur et à mesure, les hommes de Dieu, tandis que les personnes qui sont ingrates vis-à-vis des hommes de Dieu, prennent des malédictions, les hommes de Dieu, eux, augmentent en frustration, ils commencent à établir des règles pour avoir l'argent à louer. C'est comme ça que certains commencent à établir les lois que pour le rencontrer, tu payes 5 000. Pour le rencontrer demain, tu dois donner 10 000, consultation 5 000, des choses comme ça. C'est à cause de l'ingratitude des fidèles. Ça, c'est un piège. Mais il y a plein d'autres pièges qui sont des pièges traditionnels. Tu as ton voisin de dormir. Je vais vous dire. La deuxième catégorie de pièges, c'est des pièges traditionnels très faciles. Nous-mêmes, dans ça, existe souvent. Pendant ces derniers temps, ça a changé. Elles viennent souvent à ce travail de cette tenue inquiétante. On met les arguments dehors. Ça fait que, bon, quand il y a un processus de délivrance, ça devient autre chose. J'ai vu mes enfants paniquer ici. Que papa, mais on ne peut pas travailler dans de telles conditions. Tu es dehors. Mais les tentations terribles pour les pasteurs. Que tu es là en permanence, tu regardes les arguments féminins s'agiter dans tous les sens. Ça distrait l'esprit féminin, dit que, ah, qui est? Que se passe-t-il ici? Les femmes viennent à l'église provoquer l'homme de Dieu. Et c'est partout. Je me rappelle d'un prêtre qui était en train de partager la communion. Et il y a une femme qui est venue avec un super décolleté, avec une poitrine qui scintillait comme le morceau de diamant. Là, allez, j'ai fait plus de 10 ans de service. Je suis au courant de beaucoup de choses. C'est de la provocation. Donc, pendant que le gars de la communion dit quelle belle poitrine. Je sens qu'il y a encore le truc, c'est un argument belle poitrine là. Donc il y a des soins qui sont exposés à la tentation due aux frustrations générées par les fidèles, à la tentation due aux femmes, à la tentation due à l'argent, et à la tentation due aux besoins de pouvoir liés à tout ça. C'est-à-dire que quoi? Il y a des soins qui retiennent l'information de façon à ce que ils soient toujours obligés d'être consultés quand il y a un problème. Il faut voir quand ils ne sont pas là. Les fidèles sont malheureux. Quand Jadine n'est pas là, papa n'est pas là, on fait quoi? Parce qu'il a veillé à ce que l'information sur la marche avec Dieu, l'indépendance de la marche avec Dieu ne soit pas acquise. Donc quand il n'est pas là, tout le monde n'est pas là. Parce qu'il faut que tout le monde reste soumis à l'autorité là. Comme ça, on vient payer les dîmes, les offrandes, les semences. Or, entre-temps, voilà dans des pièges qui est terrible là-dedans. Les fidèles murmurent contre le prophète et ramassent des malédictions. Quand tu viens faire des offrandes avec le mauvais cœur, ça fait zéro aussi. Non seulement ça fait zéro, mais ça te fait malédiction pour avoir parlé contre l'homme de Dieu. Quand tu donnes les offrandes avec la résistance, ça fait encore malédiction. Vaut mieux ne pas donner. Troisième compartiment. Vous savez, ça c'est très difficile de s'en rendre compte. Vous avez des prophètes qui sont véritablement des joints, mais qui après ont signé des pactes avec le diable. Parce que impatient dans la marche avec Dieu, ou bien ne supportant pas toutes les épreuves, parce que la marche avec Dieu est très difficile. Vous vous plaignez ici des jours. Je dis souvent quand vous regarde. Encore que je n'ai jamais dit que 90 jours sans sexe, c'est pour les mariés. Les mariés, c'est 40 jours. J'ai dit ça à titre de rappel, parce que certains vont dire que le gars, si vraiment, il ne nous aime pas. Tata est déjà en train de protester, ça ne pas. Ce que je voulais vous dire, la marche avec Dieu est d'autant plus difficile que quand quelqu'un est loin, ses responsabilités sont encore plus grandes. Donc, ça dépend de bien loin supérieur à cause des responsabilités qui sont les siennes. Donc, il y en a qui savent, et ils finissent par signer un pacte. Mais ils signent un pacte parce qu'ils ont quitté la route où Dieu les attend. Et ils sentent que ce qu'ils avaient avant ne marche plus. Ils vont prendre le raccourci. Or, ce n'est plus Dieu. Dès le moment où tu as signé un pacte, tu as appris un peu et tu as appris là-bas. Regardez un peu les choses qui se passent dans la marche à Dieu. Comme je ne veux pas gâter les noms, il y a un prophète ici qui est même connu. Il a invité un autre prophète, comme j'ai invité le prophète Denis ici. Et un patient, après qu'on l'ait traité, sort une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Le prophète qui a invité l'autre dit à son invité que l'argent c'est moi. L'invité dit que non, c'est moi qui ai prié. Deux vrais prophètes. Deux vrais bons qui ont l'onction. Ont plié les coups de poing devant les fidèles. Ils ont fermé. Regardez comment le diable fait tomber les gens avec une grande facilité. Et il rit. Lorsque vous n'avez pas compris que la marche avec Dieu a des exigences, vous allez vous affaiblir. Vous allez être en abomination devant Dieu. Et quand vous êtes vraiment en abomination devant Dieu, vous perdez certains avantages. L'onction s'assèche. Entendez bien ce que vous dites. L'onction s'assèche. La grâce est là. Quand Dieu verse sa grâce, quelque part, il ne la retire pas. Mais l'onction s'assèche et vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien. Pour renouveler cette onction, il faut se repentir. Il faut investir encore dans tous les compartiments de la marche avec Dieu et retrouver le chemin, l'usage de la grâce. Mais beaucoup de gens ne savent pas ce que je suis en train de dire. Ils se disent que bon, si c'est compliqué comme ça, je parle chez les riches. J'achète un truc. Il y en a beaucoup là qui sont célèbres, mais qui ne sont plus de Dieu. On ne mélange pas Dieu. Dieu est en pied. Quand vous avez dans ces différents compartiments, vous commencez à comprendre la complexité. Vous avez la dernière catégorie, parce que je suis en train de faire des segmentations. De ceux qui sont restés fidèles et dont l'onction grandit, le niveau de miracle grandit, tout le monde le voit. Et ce n'est plus mesurable. Si vous n'avez pas l'esprit saint, vous voulez passer par là, avant de tirer. Si vous n'avez pas l'esprit saint, vous ne pouvez pas faire la différence entre un vrai prophète et un faux. Ça veut dire qu'il vous faut travailler beaucoup dans votre relation avec Dieu. Avoir un certain niveau de discernement que l'Esprit Saint vous donne, afin de flairer où est le danger. Il y a un plus grave, parce que certains vont trouver que je suis dur. Mais je suis là pour ça, j'ai été formé, même pour former de ces prophètes. Il y a des prophètes dangereux. C'est-à-dire que, à cause de son élan de cœur, le diable lui insulte les mauvaises pensées et il dit des choses qui ne sont plus liées à la parole. Si tu le suis, venez oui, sans réfléchir, sans discernement, il va te noyer. Mmh. Donc vous devez grandir. Faut pas que chaque fois on vous donne de l'eau ou du lait. Vous n'allez pas acheter au bureau quand même. Vous allez commencer à manger les choses de Dieu, comme le pain. Après, on va donner le macabre. On va donner la viande. Et puis on va mettre un morceau de toast à côté de la viande là. Vous devez grandir. C'est pourquoi cette formation est vraiment importante. On va la faire aussi longtemps que nécessaire. Je voudrais qu'on continue. Luc 9, 2. Marc 3. Venez d'abord Luc 9. Verset 2. Je voudrais que ce soit des gens qui n'ont pas encore lu. J'ai entendu une femme prendre la parole de là. Voilà.
Luc 9, verset 2, je lis au nom de Jésus. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades.
Dans Luc 9, le verset 2, les apôtres ont été envoyés faire quoi? Prêcher le royaume de Dieu et
guérir les malades.
Marc 3, verset 14 à 15.
Il en établit 12 pour les envoyer à l'église. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons.
Mm-hmm. 14 à 15. Ok. Voilà là où on prend le virage. Parce que certains ne savent pas que tout ce que nous sommes en train de dire est public. Pour que vous compreniez jusqu'à quel point il est fondamental pour chacun d'entre vous d'avoir le discernement et le recul nécessaire pour que cela lui serve de fondation. 1 Jean 4, verset 1. Qu'une personne prenne déjà 1 Jean 4, verset 1. Et l'autre 1 Thessaloniciens 5, le verset 20 à 21. 1 Thessaloniciens 5, le verset 20 à 21. Qui est prêt pour 1 Jean 4, verset 1? C'est vers la fin de la Bible là-bas. Il y a 1 Jean 1, 2 Jean 3, Jean avant l'Apocalypse.
Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tous les esprits, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
C'est Jésus-Christ qui annonce sa vie. Ce n'est pas moi, c'est moi qui ai écrit la partie A. Ok. 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21. Je pense que c'est après Galates. 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21.
Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon.
Relis-nous ça, s'il te plaît.
Le 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 20, ne méprisez pas les prophéties, verset 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon.
Alors, nous avons de penser à la conclusion, parce que là, vous avez dit de faire attention, la parole vous demande de faire attention. Je demande de lire Éphésiens 2. Éphésiens 2, de 19 à 22.
Oui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison, des saints. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
Recommence avec lui.
Ainsi donc, verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de... Vous êtes concitoyens, des saints, gens de la maison.
Arrête-toi d'abord là. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes des concitoyens, gens de la maison. Donc on vous traite comme des personnes de la famille. De la famille. Afin que vous ayez des fondations solides. La suite.
Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres,
oui,
et des prophètes,
oui.
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
Mm-hmm. On t'arrête là d'abord, parce que c'est très grave comprendre. Quel que soit ce que vous rencontrez là-dehors, quel que soit ce qui se passe, quel que soit le type d'individu que vous rencontrez, gardez à l'esprit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est la pierre angulaire.
Jésus-Christ est la pierre angulaire.
Une fois de plus,
Jésus-Christ est la pierre angulaire.
Donc, quel que soit les appartenances, quel que soit ce qui se passe, gardez à l'esprit que Jésus-Christ est la pierre
angulaire.
Donc, vous misez sur
Jésus.
En lui, tout l'édifice vient coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
C'est pour cela que nous attirons votre attention sur la cohérence et le réalisme avec lequel vous devez regarder l'Église. Ne vous dispersez pas dans des logiques dénominationnelles, dans des appartenances groupales, dans des problèmes de classe. Vous avez une seule direction. Vous avez un seul point de date. C'est Jésus-Christ. Nous allons finir par quelque chose. Que l'on me prépare Luc 4, du 18 à 19. Luc, chapitre 4, au verset 18 à 19. Jean 14, au verset 12 à 14. Je demande que tout le monde se lève pour ces deux derniers versets. Nous avons lu. L'ennemi coupe le montant de quelqu'un.
Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. 20. Ensuite, il roula le livre. Il remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui.
On s'arrête à 19. Qui parlait?
Jésus.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut me relire ce passage? Attends, ma fille. On te donne des micros. Jésus-Christ, notre Seigneur, parle à ce niveau. Luc 4, de 18 à 19.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance,
oui,
et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour m'envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur.
Amen.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Le dernier passage, c'est Jean 14, verset 12 à 14.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aussi fera aussi les œuvres que je fais. Et il